Vous êtes sur 106.8, Radio Grand Ciel Chartres, du côté de la Pointe aux Âmes. Une émission écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, Simon Martin. Je vais donc tâcher pour lui de ne point trop bégayer, bafouiller, cafouiller et que sais-je encore. Bref, de ne pas trop me marcher sur la langue, comme c'est un peu ma spécialité. L'été indien est sur Chartres. Lorsque j'étais enfant, à chaque fois que venait cet été indien, je sortais sur le pas de la porte, attendre la venue de Cochise ou de Geronimo et des siens. J'attends toujours. J'espère vous trouver en la meilleure des formes. Prêt pour une demi-heure de musique ? Alors en route toute, mais d'abord, un grand bonjour à vous. Comme tout un chacun, j'ai eu une jeunesse. J'ai aimé le tourbillon, la vitesse, le bruit du monde. Et puis un jour, tout ça s'est arrêté. Une espèce de clarté s'est faite et le bruit est redevenu ce qu'il était. Un silence malade, une grimace, un masque mal peint, grotesque. Avec le bruit s'en allaient les faux-semblants, l'inconstance, l'inattention portée aux êtres et aussi pas mal de ces bouffées d'orgueil, de vanité même, qui avaient fini par me priver de la lumière des jours. Et le vieillard adolescent que j'étais est enfin devenu jeune. Je me souviens ce matin-là avoir raccompagné à la gare le jeune homme que j'étais. Je me suis serré la main, puis quand je fus certain que j'étais bien monté à bord de ce train qui s'éloignait, je suis paisiblement rentré chez moi, en souhaitant ne plus jamais revoir celui que j'avais laissé là, sans chagrin. J'avais pris congé du jeune homme que j'étais. Bon voyage. Puisses-tu me fuir au plus loin et ne plus revenir. De cette même façon, la musique est entrée deux fois dans ma vie. La première, pour apprendre. Et comme disent les gens qui s'occupent de cheval, pour débourrer le sale gamin que j'étais. Ivre encore des musiques, des attitudes, des pensées toutes faites de son époque. Puis une seconde fois, elle est venue. Non pas en majesté, mais au contraire, plus simple qu'elle n'avait jamais été. Elle revenait, douce, lente et sûre comme la chaleur de l'été, traversant les murs de ma maison, puis réchauffant l'air autour de moi, avant de m'entrer sous la peau. Je me revois un jour assis sur le bord de mon lit, caressant doucement les cordes d'un instrument que m'avait fabriqué mon grand frère, Bernard, et que j'avais toujours avec moi. Je l'avais utilisé dans des musiques de films et au théâtre, dans une autre vie. J'aimais cet instrument, juste quelques notes éparses, mais de quel cristal. J'imaginais aussi le son de la harpe de David, sorti de la Bible pour venir attendrir le cœur sec et durci des hommes.
Thank you.
le psaltérion est de la famille de la cithare, ou plus généralement de ce que l'on nommait joliment à une époque les harpes de table. C'est là sa classification tardive, la plus proche de nous, car c'est dans la Grèce antique, psalterion, que l'instrument nous transporte, ainsi qu'à Rome, psalterium, disaient les disciples du grand Jules. C'est assez vraisemblablement vers le Xe siècle, par le canon de la musique arabe, que naîtra le psalterion tel que les représentations médiévales nous le montrent. Le psalterion sera très répandu et en faveur du XIIe au XVIe siècle dans toute l'Europe, puis il survivra, tant bien que mal, jusqu'au XVIIIe. Il prendra, chemin faisant, diverses formes, du triangulaire au trapézoïdal, en passant par l'arrondi. C'est ce psalterion à forme arrondie que nous montre la porte occidentale de la cathédrale de Chartres. Et c'est ainsi qu'on le voit aussi dans l'église du Mans, qui s'appelle, je crois, Notre-Dame de la Couture. Il prendra également la forme d'un rectangle et d'un carré. Il est représenté de cette façon dans la chapelle palatine à Palerme. On trouve en fait de nombreuses représentations du psalterion dans les cathédrales européennes, encore Amiens ou Lübeck, par exemple. Représentations suivantes et consignant l'évolution de l'instrument, ses changements de formes et de tailles. Le nombre de cordes, que l'on appelait des chœurs à l'époque, vous savez, c'est toujours la dénomination en vigueur pour le luth. On dit un luth à 10 chœurs, simples ou doubles. Vous remplacez le mot chœur par corde et vous avez le sens. Le nombre de cordes, donc, a pu varier de 6 ou 7 d'abord, jusqu'à 15 ou 16, puis 30. Aujourd'hui, certains psaltérions ont parfois plus de 70 cordes. Nous allons en entendre un tout à l'heure. Le psaltérion se tient soit sur les genoux du musicien, soit devant lui, contre lui, à la verticale, ou bien encore posé sur une table ou un support. Ce que l'instrumentarium de Michel Praetorius a défini comme psalterion français est le modèle trapézoïdal à 16 cordes doubles, creusé d'une rose très finement ouvragée en son centre, entouré de deux autres petites roses de part et d'autre, et gravé de la mention « Gloria in excelsis Deo » à sa base. Je me concentrerai sur cet instrument-ci pour aujourd'hui. C'est essentiellement l'architecture religieuse médiévale européenne qui gardera trace de l'instrument, aidant par avance les luthiers modernes à le recréer avec exactitude. L'architecture donc, mais aussi la peinture, avec par exemple le triptyque d'Hans Memling, les anges musiciens exposés à Anvers, en Belgique, ou bien le Tintoret et son « Femme faisant de la musique » visible à Dresde en Allemagne. Encore Edward Burne-Jones ou Dante Gabriel et Rossetti, pré-raphaélites anglais, qui ont représenté l'instrument avec immensément de grâce. La grâce, c'est peut-être le maître mot de cet instrument, ce qu'il conviendra d'y rechercher, ce qu'il a à nous transmettre. Plus rudimentaire que la harpe, le psalterion exprime une musicalité pourtant très proche de celle-ci, un cristallin, une sorte de surréalité, de musique des songes, un idéal sonore envoûtant et fragile. La modestie de l'instrument nous pousse à y servir la musique, et non à se servir par elle, maladie très répandue de nos jours. Y donner vie à un absolu, une spiritualité, ou bien dire les éclats son cœur, à s'y montrer souffrant, s'exaltant, suppliant ou exultant, toujours saisi, sous la commande d'un mouvement qui nous dépasse. En musique, nous recherchons d'abord ce qui nous est proche, naturel. Puis, partant, nous établissons nos passerelles vers le monde du dehors, vers les langages par lesquels nous pourrons aborder puis comprendre le monde, et enfin converser avec lui, faire résonance. Notre cœur s'y ouvre entier, s'y rend disponible. Voilà pourquoi il faut savoir le défendre de toutes les propagandes possibles et d'un certain esprit vénal qui a envahi la musique telle que nous la vivons aujourd'hui. Non, la musique n'est pas une industrie. Est-ce que la philosophie est une industrie? Et la morale, la foi, la bonté, la beauté, le courage, la grâce? Si rien de tout cela nous est un idéal absolu et atteignable par tous librement, alors nous vivons sous un règne menteur qu'il nous faut rejeter. Mais voyez un peu où ce petit instrument vient de m'entraîner. Allez, ramenons vite la paix. Trois chansons pieuses provençales, San Alessi, Santa Margarita et la Passion de Jésus-Christ. Une des marottes de notre époque est de vouloir dire qui est le présent, qui a donc le droit à la parole, et qui est le passé, et par là, prier de faire silence. Ces cloisonnements absurdes valent ce que valent et vaudront tous les murs du monde, juste bons à être abattus. Ce souvenir encore et toujours des gouffres où nous entraîna un soi-disant refus de l'ordre ancien, et de ce que cachait en vérité le soi-disant progressisme des doctrines eugénistes du siècle dernier. Entre mille autres attributions, le musicien est aussi une statue élevée à la mémoire, tout comme l'est le compositeur, dans l'instant même où il compose. Que l'on vive en harmonie avec lui ou qu'on le rejette, le temps et son règne sur nous seront toujours notre question, notre résidence, et pas un de nos actes ne sera produit hors de lui. Ainsi, un homme du XXIe siècle jouant du luth, du théorbe, de la viole de gambe ou du psaltérion sera un musicien contemporain. Ainsi, certains musiciens folk français ou britanniques ont-ils pu utiliser le psaltérion en étant on ne peut plus gens de leur temps. J'aimerais à présent vous faire entendre un autre style de psaltérion avec Bob Stewart. Il utilisait un psaltérion à forme carrée. C'était déjà une forme altérée du psaltérion. Il le joue posé à plat sur une table devant lui. Son instrument est monté de 75 cordes, mélodiques et harmoniques. Et comme vous pourrez l'entendre, son expression est ici incroyablement proche de celle de la harpe celte. L'état premier du psaltérion, plus ou moins 16 cordes, simple ou double, confinait le musicien dans une simplicité maximale, exprimait la mélodie et suggérait ici ou là l'harmonie par l'ajout d'une seule note, indiquant généralement l'accord en donnant la dominante, ou bien l'harmonie majeure, mineure. Rarement plus de deux cordes étaient jouées simultanément, ce qui était en fait la réalité et la pratique des harpistes de la vieille Irlande. Leur harpe chantait la mélodie, l'harmonie était à peine suggérée. Ainsi, certaines ballades pouvaient-elles se concevoir, aussi bien en mode majeur que mineur. Et qu'en était-il de la corde simple ou double ? Sur la corde simple, on pouvait donner de l'attaque, du tranchant avec l'ongle, ou bien faire velours en utilisant la chair du doigt. Et le contrôle du forte ou du pianissimo était total. On était alors dans une configuration du son et de ses nuances se rapprochant de l'harpe. La corde double, elle, produisait un son de plus d'ampleur, mais c'était presque déjà le système de pinces de l'épinette qui conduirait au marteau du clavecin, des claviers donc, qui allaient détrôner le psaltérion. Il faut ici se souvenir que c'est partant de l'idée d'ajouter un clavier à un psaltérion que naquit le principe de clavecin. On nomma l'instrument ainsi obtenu échiquier. Il existait donc des joueurs d'échiquier. Dans l'affaire, le psaltérion fut un peu avalé, supplanté. Il survécut tant bien que mal jusqu'au XVIIIe siècle, puis disparut, sombrant corps et biens. C'est le renouveau baroque qu'il fera renaître, même s'il serait totalement injuste de ne pas mentionner l'œuvre cruciale des musiciens folk européens, qui ont sans doute sauvé l'instrument de l'extinction pure et simple en continuant de le faire sonner. Quoi qu'il en soit, il est revenu avec l'attention portée à la sonorité exacte, à l'instrumentation historique, aux instruments d'époque. Attention portée d'abord sur les violons, leurs archets, sur toute la famille de la viole de gambe, sur les clavecins, l'organetto. Le psaltérion, lui, est resté un peu en arrière. On peut cependant, grâce au maestro Jordi Savall, entendre sa voix de nouveau. Andrew Lawrence King, harpiste émeritus de l'Hespérion 21, l'utilise relativement souvent et ô combien brillamment. L'un des grands serviteurs de l'instrument a été celui qui est maintenant un vieil habitué de mes émissions, à savoir Maurice Guis, l'âme du groupe Les Musiciens de Provence. Je reste attaché à la forme première du psaltérion, car tel quel, il nous renvoie à l'essence de la musique, l'essence du chant, la mélodie. Ce psaltérion est un pinacle de simplicité, une exhortation au sentiment, un culte rendu à la pure mélodie. Voilà, je n'ai souhaité par cette émission que vous faire entendre la petite chanson, comme on dit, de ce noble instrument, une petite bouffée d'air frais, j'espère, entre deux claquements de porte, deux coups de klaxon, deux « pousse-toi de là que je m'y mette », deux invectives, deux de ces brutalités charmantes qui font notre monde d'aujourd'hui. Il n'est, à mon avis, pas de grands et de petits instruments. Tel qu'il est, le psaltérion peut porter sa musique jusqu'au ciel. Tant dans ses diverses représentations que dans l'établissement puis la destination de son répertoire, le psaltérion ne quittera guère la maison de Dieu, l'accompagnement du psaume, celui de la prière. Pour preuve, nous refermons la présente émission par cette simple et émouvante adresse à Jésus-Christ, Fils de Dieu le Père. Jésus-Christ, Fils des Dieu Viu. Sur un bourdon de vielle, Maurice Guis est au psaltérion. Maurice Guis qui, dans ses belles notes de pochette, rappelait à nos mémoires cette très ancienne maxime. Psalterio que elesta, citara autem terrena laudentur. Soit, au psalterion la louange céleste. À la cithare, le chant d'ici-bas. Un très bon mois à vous tous. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.